Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Sans doute plusieurs parmi vous avaient eu cette expérience d'accompagner un parent, un conjoint, un ami, peut-être même un enfant dans les derniers moments de sa vie. Et c'est ce thème que nous allons aborder avec Monseigneur Alain Faubert, qui a gentiment accepté notre invitation pour parler des pistes d'accompagnement pastoral des personnes en fin de vie. Monseigneur Alain Faubert, merci beaucoup.
Ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est un sujet qui me passionne tellement, puis qui me touche de près aussi parce que j'ai eu l'occasion, il y a tout récemment, là, d'accompagner mon père avec toute notre famille là, dans la mort, vers la mort. Et puis ça a été une expérience pleine de lumière. Fait que il y a ça aussi là, qui me prend au cœur alors qu'on vit ce moment de rencontre. Donc, merci de me donner l'occasion de témoigner, puis en même temps, de partager les perspectives de ce document-là de l'Assemblée des évêques du Québec, là, qui a été publié officiellement le 11 février, hein, journée des malades, et puis de Marie Notre-Dame de Lourdes. Alors, on est très fiers là, de l'offrir comme un outil de réflexion, d'approfondissement, pour qu'on puisse ensemble aller plus loin là, dans l'accompagnement pastoral, plein de compassion, là, des personnes qui cheminent là, jusqu'au bout de leur vie, puis qui nous demandent de les aider.
Merci dans ce contexte d'accepter cette entrevue et je pense que votre expérience ainsi que les pistes d'accompagnement pastoral vont être très éclairants pour des gens qui posent des questions. Mais quelques mots quand même sur vous, Monseigneur Alain Faubert, vous êtes évêque de Valleyfield.
Exactement.
Ben, parlez-nous un peu de votre diocèse.
Ben, écoutez, je suis heureux de vous parler du diocèse là, de cette belle grande région qu'on appelle le Suroît, c'est-à-dire le sud-ouest de notre belle province du Québec. Donc, une région frontalière, une région aux frontières avec nos amis voisins des États-Unis, nos amis voisins de l'Ontario, ajoutés donc à la grande cité, à la grande métropole de Montréal. C'est un terrain fascinant, une histoire là, depuis 1892 que ce diocèse-là existe autour de la ville de Salaberry de Valleyfield, mais aussi de municipalités et de villes très en grande expansion démographique comme Châteauguay, comme Pincourt, à l'Île-Perrault, Vaudreuil-Dorion, jusqu'à bon Rigaud et puis ben dans l'autre sens jusqu'à Hemingford et puis qui inclut aussi la très belle réalité de nos frères et sœurs autochtones là, de la réserve d'Akwesasne, donc de la communauté catholique de Saint-Régis. Une réalité de plus en plus diversifiée au plan culturel. C'est un super défi d'Église là, de se rencontrer et de découvrir ben, que depuis le début, en fait, il y a une diversité culturelle avec la présence des Irlandais, mais de plus en plus des Camerounais, des gens, des Filipinos, des Latinos, bien sûr, avec les travailleurs saisonniers qui sont là. Donc, des réalités très, très diversifiées, des enjeux de société là, que nous, on vit, aux premières loges, là, l'enjeu donc des travailleurs saisonniers, l'enjeu des demandeurs d'asile, puisque le fameux chemin Roxham, c'est un peu la limite entre le diocèse de Valleyfield et le diocèse de Saint-Jean-Longueuil à côté. Donc, voyez-vous, des défis importants, la grande transformation là, de l'urbanité qui arrive de plus en plus dans des coins ruraux. Donc, on a beaucoup de rurbanité. Donc,
de rurbanité, oui, c'est un nouveau
c'est
mot?
Non, mais en fait, ça fait longtemps qu'on parle de contexte rurbain. C'est un peu le mixte du rural et de l'urbain. Et puis, de plus en plus d'arrivants. Donc, on a une démographie en explosion. Là. Comme dit une de mes collaboratrices, les gens ont trouvé le pont de l'île aux Tourtes, le pont de Lavin, le pont Mercier. Donc, il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent dans la région. Donc, ça crée des défis. Je dirais, une Église qui a vécu quand même avec aussi la pandémie puis les dernières années, des appauvrissements au niveau de son équipement pastoral puis du personnel pastoral, là, des artisans d'Évangile là, qui sont capables justement de répondre présent et de continuer là, à porter l'Évangile. Alors, grand défi d'aider les gens à découvrir la présence du Christ ressuscité au cœur de leur vie. Pas juste donc une série de valeurs ou d'enseignements, mais vraiment la présence du Christ qui nous précède justement auprès des plus fragiles, auprès des mourants.
Mais justement, nous allons parler de ce document absolument formidable. qui a été publié par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Quelques mots d'abord sur l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Ça regroupe les évêques du Québec.
Ça regroupe effectivement tous les évêques catholiques du Québec, les 17 ou 18 diocèses, là, pardonnez l'imprécision en ce moment. Mais donc, il y a des évêques là, dans tous les coins du Québec. Il y a 5 provinces ecclésiastiques, c'est-à-dire 5 mini-regroupements à l'intérieur de ce grand regroupement de l'Assemblée régionale, à l'intérieur de la grande conférence épiscopale canadienne. Donc, l'Assemblée des évêques, c'est un organe de concertation, c'est un service qui permet à l'ensemble des évêques, là, puis à l'ensemble, je dirais, des artisans d'évangile qui sont dans l'environnement des évêques, hein, qui aident les évêques dans le ministère qu'ils ont là, de communion à l'intérieur de leur église, puis de communion entre les églises. C'est ça qui est hyper important. T'sais, un évêque, c'est pas seulement un chef d'église locale, c'est aussi le pont, le lien avec les autres églises, bien sûr avec le pape, mais avec les autres églises et à commencer par les églises d'une même région, d'une même province ecclésiastique, puis de la même région. Puis au Québec, on a cette chance-là, dans un sens, d'avoir une assemblée régionale avec des évêques qui se rencontrent régulièrement, avec des collaborateurs et des collaboratrices là qui aident à réfléchir, puis qui aident justement à trouver les pistes pour mieux rendre compte de l'Évangile dans notre terre québécoise. Là, il y a une grande assemblée missionnaire qui se prépare pour l'automne. Ça pourrait être l'objet d'un autre rendez-vous. Mais pour dire, là, il nous presse d'annoncer l'Évangile aujourd'hui. Il y a de grandes transformations qui ont touché et l'Église et la société. Comment on fait face pour être vraiment fidèle? C'est pas nécessairement de reproduire le passé tel quel. C'est d'être dans une fidélité créatrice qui répond aux appels de l'Esprit aujourd'hui. Et puis, ben voilà, le document que nous proposons, c'est ça. Parce que le terrain a tellement changé avec tout ce qui s'est développé au niveau des techniques médicales pour accompagner les personnes en fin de vie, les soins palliatifs, ce qu'on a appelé l'aide médicale à mourir. On conteste, nous, le terme parce que c'est pas un acte médical et c'est du suicide assisté ou c'est de l'euthanasie plutôt. Donc, nous, on regarde ça puis on se dit qu'est-ce qui est en jeu ici, là, au niveau de la dignité des personnes. Puis comme tout, là, notre critère le plus fondamental, comme vous le savez sans doute, c'est le Christ, c'est comment Jésus, puis la Bible, c'est pas un livre de recettes, l'Évangile non plus, mais comment est-ce qu'on peut deviner que Jésus se situe par rapport à ces enjeux de dignité des personnes là, qui sont dans des situations de grande fragilité. Et voilà le document qui nous propose simplement. Si vous lisez, c'est pas très long, c'est 35 pages, mais j'allais dire c'est écrit gros, avec l'idée là, tu sais, qu'il y a des endroits pour justement noter. C'est ce qui est le fun, c'est que c'est un outil de travail. Puis ce que vous allez voir effectivement, c'est ça. C'est la proposition, c'est de regarder le Christ lui-même, de regarder comment lui-même, qui se cache un peu derrière la figure, d'ailleurs, du bon samaritain, qu'il a utilisé comme parabole de se faire proche des autres, là, et donc qui nous invite, chrétiens, chrétiennes, québécois, québécoises, que ce soit sur la base individuelle ou sur la base là, des communautés de foi que sont nos paroisses, nos communautés locales, de se rendre présent, de répondre présent à l'appel de nos frères et de nos sœurs, là, qui, des fois, vont crier de toutes sortes de manières, là, « Hey, je suis en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? » Puis qui ont toutes sortes de questions, puis ont toutes sortes de besoins. Et donc, le document est un outil, c'est pas le dernier, c'est pas le premier mot. Si vous visitez les annexes de ce document-là de 35 pages, il y a l'historique de tout ce que les évêques au Québec ont pu mettre en avant pour poser des questions, pour accompagner la société dans les réflexions qui se faisaient ces dernières décennies autour de la fin de la vie et de comment on fait ça dans la dignité. Alors, tout le monde est pour la dignité, mais peut-être qu'on n'a pas tous la même vision de cette dignité que nous considérons chrétiens, catholiques, une dignité inaliénable, que tu peux pas enlever, que tu peux pas perdre. Tu peux la perdre de vue. Tu peux ne plus l'avoir chez toi, tu peux ne plus l'avoir chez ton père, ta mère qui est en train de mourir là avec sa couche puis tout, mais tu ne la perds pas. Et tout le défi de ne jamais perdre de vue, d'avoir constamment cette conversion du regard qui nous aide à nous situer en vérité, parce qu'on est toujours fragile. On est fragile du début à la fin de notre vie. Fait que c'est pas en fin de vie, quand tu serais fragile, que tu perds ta dignité. Tu l'as tout le temps, ta dignité. Mais il faut qu'on aille à la rencontre de cette fragilité-là pour aider, pour donner une qualité de présence et une qualité de vie aussi par notre présence. Soutenir la qualité et la dignité de la vie des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui sont en perte de cette qualité-là, puis qui perdent peut-être des points de repère, puis qui disent peut-être parfois, ben moi je veux pas déranger. Ben nous on arrive à dire, ben peut-être qu'il y a quelque chose de bien à ce que tu nous déranges, mon frère, ma sœur, toi qui es en fin de parcours, parce que ça nous situe dans la vérité aussi, puis ça nous aide à poser des gestes qui vont t'aider, mais qui nous aident aussi à nous situer en vérité. Alors, c'est tout le défi de cet accompagnement compatissant. La clé du document se trouve autour de ces deux mots-là. Accompagner, qui est pas taper sa tête des gens, qui est être présent, qui est être dialogue, qui est être écoute. Et la compassion, qui est vraiment l'attitude spirituelle qui est incarnée par le Christ et que le Christ met en scène à travers la figure très belle du bon samaritain. Donc, d'être dans une disposition d'une telle proximité qu'effectivement, la souffrance de l'autre, sans dire qu'on l'absorbe, ben on se rend en syntonie avec elle, puis on essaie d'aller plus loin dans l'écoute, justement. Ça nous permet d'aller plus loin dans l'écoute. Puis des fois, de répondre, ou enfin pas de répondre, mais d'entendre les questions derrière les questions. Je veux plus vivre. Je veux pas déranger.
Qu'est-ce qu'on fait devant ces questions-là? Qu'est-ce que vous proposez comme piste?
Ben voilà, ce document-là, là, c'est clair que, premièrement, on peut dire qu'il s'adresse à plusieurs catégories de personnes. On va dire, par exemple, qu'il s'adresse là à monsieur et madame qui veulent... parce que t'as des proches aidants, puis là, l'accompagnement pastoral, peut-être qu'on va se dire, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus qualifié en termes d'accompagnement chrétien qu'une présence là de solidarité ou de fraternité, parce que mon père, ma mère est là en train de souffrir. Cet accompagnement-là des proches aidants, quand on lui donne une dimension chrétienne et qu'on essaie de voir jusqu'à quel point on peut être en accompagnement pastoral, ben il y a des personnes, donc monsieur, madame, tout le monde, qui peuvent en profiter. Il y a les intervenants pastoraux qui peuvent en profiter, puis il y a les communautés chrétiennes qui peuvent en profiter. Fait que il y a plusieurs, il s'adresse à plusieurs personnes, ce document-là. Je pourrais même rajouter une quatrième catégorie de personnes, c'est qu'il s'adresse aussi à la société québécoise, parce que au-delà de ce qu'on a à faire comme accompagnement, nous comme communauté de foi, puis comme chrétiens, chrétiennes engagés qui voulons répondre présent, il y a quand même des questions posées à notre société. Alors, ce document-là, il va aussi vers ça. Donc, l'accompagnement pastoral comme tel, c'est l'accompagnement, le mot accompagnement, c'est marcher avec, c'est être présent, c'est être en écoute. Et l'accompagnement pastoral, c'est proposer dans une écoute simple, le kérigme, la base là, de ce qu'on croit, nous,
le
chrétiens.
Le kérigme.
Oui, c'est la base. Tu sais, c'est le cri original de Jésus là, qui dit, là, hey, il y a une bonne nouvelle. C'est ça, le kérigme. C'est le cri original de Jésus qui dit, hey, gang, là, écoutez-moi, il y a une bonne nouvelle. Dieu, il est de notre bord. Dieu, il t'aime. Puis Jésus va l'incarner tellement, cet amour de Dieu-là, qu'il va aller jusqu'à donner sa vie pour nous. Fait que, tu sais, d'arriver devant quelqu'un et dire, hey, il y a un bon Dieu pour toi. Oui, mais je suis pas parfait. Il y a un bon Dieu pour toi. Oui, mais j'ai demandé l'aide à mourir. Il y a un bon Dieu pour toi. Et donc, de refuser, nous, comme chrétiens, là, d'abandonner quelqu'un sur la base d'un jugement qu'on ferait. Non, pas de jugement. On est là, on répond présent, on va jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire avec les personnes. Simplement, doucement, toujours en attention aux besoins réels, pas dans un programme de choses que moi j'ai besoin de dire, mais d'offrir, si besoin est, la réponse chrétienne et proposer aux personnes justement de vivre ces derniers moments-là avec le Christ, dans le Christ et dans la prière pleine d'espérance en la résurrection que le Christ a inaugurée.
En compagnie de Mgr Alain Faubert, nous parlons du document « Pistes d'accompagnement pastoral des personnes en fin de vie ». Il y a plusieurs éléments que vous avez mentionnés dans la première partie de l'émission, Mgr Faubert. D'abord, il y a une distinction que vous faites très clairement entre soins palliatifs et aide médicale à mourir. Pouvez-vous là-dessus nous éclairer la perspective des évêques du Québec?
C'est-à-dire que nous, d'emblée, ce qu'on se dit, c'est les soins palliatifs, c'est une approche qui respecte l'ensemble de la personne humaine. C'est une approche de vraiment intégrale de l'ensemble de la personne humaine qui, donc, c'est une approche multidisciplinaire qui a au cœur, là, la dignité intrinsèque, la dignité, là, inviolable, inaliénable, la dignité que tu peux pas perdre, là, d'une personne en fin de vie et qui propose sans allonger ni sans abréger, qui propose d'accompagner en douceur. L'image qui me venait, là, parce que on accompagnait mon père dernièrement, c'est de prendre quelqu'un, là, puis tranquillement, quand la personne tombe sur le dos, là, d'être là en arrière, là, puis de l'accompagner doucement vers le sol, plutôt que de provoquer sa chute parce qu'il l'aurait demandé. Mais c'est vraiment donc d'être présent. Je dis, on n'est pas dans une approche tout ou rien ici, mais on se dit que ça donne les meilleures chances, ça donne les meilleures possibilités pour aider quelqu'un à vivre de manière pleinement humaine ces derniers moments de vie, puis d'aider aussi les personnes qui l'accompagnent à vivre ça avec le moins de violence possible, parce qu'on se doute pas qu'il puisse y avoir dans ces moments-là quelque chose de violent à accueillir, quelle que soit la mort qui nous attend, quelque chose de violent à accueillir pour les personnes qui vont devoir laisser aller quelqu'un dans la mort. Et donc, on croit que les soins palliatifs doivent être développés. Et donc, au Québec, on s'inquiète, et c'est peut-être là une interpellation que ce document-là, sans prendre à partie le gouvernement, c'est une interpellation qu'on s'est dit, ah, coudonc, vous avez fait des super belles consultations sur les soins de fin de vie, vous avez dit les soins palliatifs puis l'aide à mourir, bravo, la continuité des soins ou un continuum de soins. Puis là, ce qu'on voit, c'est que il y a bien des ressources qui sont très disponibles pour l'aide à mourir. Mais du côté des soins palliatifs, là, il y a un accès là très 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 limité. Puis on se pose des questions là-dessus. Donc, quels sont nos choix de société par rapport à ça? Puis donc, est-ce qu'on permet vraiment à des gens qui sont en fin de vie là d'entrer dans cette démarche-là douce, respectueuse, que sont les soins palliatifs, et donc de pas les forcer dans des choix du genre, on va choisir l'aide à mourir parce que de toute manière, il n'y a rien d'autre. Et puis, on présente ça d'emblée. Non, d'emblée, là, présentons donc ce qui est le plus riche. Puis, ce qui est le plus riche, puis ce qui est le plus humain, ce sont des soins palliatifs, là, avec toute une équipe, là, qui sait, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les maisons de soins palliatifs, puis aussi à l'hôpital, c'est du monde qui savent comment faire, là, puis qui ont vraiment une approche en douceur, puis qui aident vraiment et les familles et les personnes mourantes à cheminer.
Monseigneur Faubert, si quelqu'un dans ma famille, quelqu'un dans mon entourage choisit l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on peut quand même accompagner pastoralement cette personne?
Tout à fait.
Ou il faut vraiment dire je suis pas capable.
Mon Dieu. Et c'est ça, là, il y a quelque chose au cœur du document. C'est pas est-ce qu'on peut, c'est on doit. Mais enfin, on doit. T'sais, dans le sens, là, répondons présent. C'est attention là, t'sais, de penser que nous autres, on est une église là, qui accompagnerait seulement des gens là, qui seraient dans des démarches parfaites et tout. Non, on est tous en chemin, on a tous nos questions. Puis il y a des gens qui sont peut-être pour mille raisons rendus à dire, bon, mais là, moi, j'en peux plus. Puis en considérant ça, au lieu de considérer, par exemple, une approche palliative ou un refus de soins qui, avec les soins palliatifs, les amène doucement dans la mort, ben disent, moi, je veux l'aide à mourir. Non, faut voir comment on est capable d'accompagner. Bien sûr, là, il y a peut-être des intervenants et des intervenantes, il y a peut-être des membres des familles ou des proches qui se sentent moins capables dans ce contexte-là d'accompagner, mais c'est sûr que l'interpellation qu'on reçoit, c'est non, tâchons autant que possible de répondre présent à ces demandes-là si la personne demande un accompagnement. Jamais s'imposer, jamais s'imposer, mais répondre présent. Et de fait, là, c'est pas est-ce qu'on doit, c'est pas si. Après ça, ça devient oui et comment. Et donc, justement, en étant là de manière absolument fraternelle, toujours en présentant le visage du Dieu sauveur. Toujours. Et là, il y a un enjeu, là. C'est pas le bon Dieu va te punir, là. C'est toujours représenter ce visage-là d'un Dieu plein de compassion qui se déploie, là, sur le visage du Christ. Le visage de la miséricorde, disait le pape François, qui resplendit sur le visage du Christ.
Est-ce qu'il n'y a pas un rôle que la communauté chrétienne peut jouer pour soutenir, ouais, justement des personnes qui auraient accompagné leurs parents, leurs conjoints, leurs conjointes, même des enfants qui ont vécu le grand passage? Est-ce que la communauté n'a pas un rôle à jouer avant et après?
Il y a, là, c'est une question hyper importante parce que il y a beaucoup à faire, puis on n'est pas justement en train de taper sur la tête du monde en disant, là, il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça. On sait tous les défis que ça représente pour une communauté chrétienne. de se reconnaître là comme protagoniste, de se reconnaître comme une actrice, comme communauté là d'accompagnement des familles qui vivent là, le passage d'un de leurs proches, de leur donner par exemple accès à des moments de prière, créer des équipes. Puis, ce qui est intéressant là, c'est quitter peut-être le modèle un peu clérical, bureaucratique, qui dit ah, on a quelqu'un là à l'hôpital qui est un aumônier qui va se... On n'a plus ça là. On a des intervenants en soins spirituels qui sont, je veux pas dire, ils sont non dénominationnels. Ça veut dire qu'ils interviennent plus au nom d'une foi. Ils sont là pour des besoins spirituels. Mais les besoins spirituels, confessionnels, religieux, là. Moi, je veux prier. Je veux prier le Christ. Je veux prier la Vierge Marie. Je veux avoir les sacrements. Je veux profiter, là, on le met en scène dans le document, le plus tôt possible, de profiter de ce sacrement des malades, qui est pas le sacrement des mourants, qui est le sacrement des malades d'abord et avant tout, pour les aider à passer à travers des maladies potentiellement mortelles ou des maladies graves, mais qui vont pas nécessairement mener à la mort. Oui, il y a le cas ultime de l'onction en fin de vie. Mais donc, comment est-ce que les communautés et les pasteurs et les ministres de ces communautés-là se reconnaissent protagonistes, plutôt que d'être dans un modèle qui dit, bon, ben là, il y a quelqu'un qui s'en occupe, où est-ce que je signe mon chèque pour que la personne continue à s'en occuper? Là, on n'a plus ça, là. Et donc, on est tous, puis là, c'est pas de blâmer personne, parce que on est tous en éveil de cette nouvelle réalité sociale où on ne peut plus compter sur le gouvernement puis les ressources gouvernementales pour donner, peut-être qu'on pourrait contester ça, mais pour donner des soins spirituel, confessionnel, pour répondre aux besoins religieux des gens, pas juste de la spiritualité, mais des besoins religieux. C'est bon, la spiritualité. On n'est pas dans le tout ou rien ici, là. Les intervenants en soins spirituels font une super job. Mais un moment donné, est-ce que comme communauté de foi, on se reconnaît responsable des membres qui sont au loin? Là, on va dire oui, mais les gens qui sont à l'hôpital, Anna Laberge, qu'est-ce qu'ils connaissent la communauté de Saint-Joachim de Châteauguay, par exemple? Ben c'est pas grave ça. La communauté de Saint-Joachim de Châteauguay, es-tu capable de reconnaître là qu'il y a du monde là à l'hôpital Anna Laberge qui sont des chrétiens catholiques là, puis qui n'ayant peut-être pas choisi sont des paroissiens là d'adoption. Puis comment est-ce qu'on on est présent à leurs besoins? Il y a énormément à faire. C'est pas évident. Ça implique des choix. Ça implique de la formation. Ça implique la responsabilité baptismale reconnue à tous. Puis ça implique peut-être de reconnaître que certains ont des charismes qu'on veut mettre en lumière, puis qu'on veut soutenir là, par la reconnaissance puis de la formation. Donc, il y a beaucoup à faire. Le dernier petit chapitre 6 là, sur la co-responsabilité là-dedans met en scène ces immenses défis. Moi, je me dis, commençons. On est avec ce document-là en train de mettre des blocs de construction. Il y a à la fin de chacun des six chapitres, il y a une section là pour reprendre des questions et tout. Moi, je me dis peut-être qu'à un moment donné, dans une perspective synodale, on va pouvoir réaccueillir du côté des évêques et de l'Église au Québec cet immense appel là, qui nous arrive par nos frères et sœurs et porter le ballon plus loin, aller plus loin dans notre réflexion puis dans notre réponse surtout de compassion et d'amour pour les personnes en fin de vie.
Monseigneur Faubert, est-ce que le sacrement des malades, qui n'est pas l'extrême-onction, là, comme vous l'avez bien expliqué, qui est un sacrement pour les personnes qui voudraient vivre une rencontre avec le Christ dans la maladie, est-ce qu'il est un peu ignoré ou pas assez offert?
Bien, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est une question qu'on se pose. C'est sûr qu'on a moins de prêtres pour l'offrir. C'est un sacrement qui doit être présidé par un prêtre qui célèbre avec les autres, mais qui doit présider ce sacrement-là. Donc effectivement, là, il y a moins de possibilités ou il y a moins de d'initiatives. Mais je crois qu'il y a quand même des choses qui sont très belles, qui se font. Des fois, autour du 11 février, il y a des communautés, par exemple, qui offrent le dimanche autour du 11 février des rendez-vous pour les personnes malades des communautés.
Le 11 février étant la journée
mondiale, oui, des mondiales des malades, Notre-Dame-de-Lourdes. Mais certains vont dire, moi je connais des paroisses puis des communautés qui disent, ouais, mais ça, le 11 février, c'est l'hiver, c'est pas évident. Ben, qui refont ça à une autre date symbolique, le beau temps venu. Ce qui est peut-être moins évident, c'est de répondre à des demandes immédiates et donc de s'équiper comme communauté pour répondre de manière assez rapide là, à des demandes qui vont se présenter au téléphone à quelques heures d'une fin de vie. Ce qui est probablement un des propos importants du document, c'est comment on prend l'initiative, comment on travaille en amont, pas seulement sur le sacrement des malades, mais sur tout ce qui s'appelle comment est-ce qu'on, comme chrétien, nous on regarde la mort, puis comment on envisage notre propre mort avec le Christ.
Justement, Monseigneur Faubert, ma dernière question, mourir comme le Christ. Est-ce qu'on en parle assez? Vivre comme le Christ, on en parle plus. Mais
c'est vrai.
Parce que Saint Paul va en parler, lui.
Oui.
Hein, regardons celui qui est mort pour nous, pour que nous puissions vivre.
Oui. Ben, j'aimerais pointer, puis là, je veux donner un petit peu l'eau à la bouche là, à nos auditeurs. T'sais, lisez ce fameux document de l'Assemblée des évêques là, sur les pistes d'accompagnement pastoral en fin de vie. Puis vous allez trouver un paquet de petits liens vers d'autres ressources, et en particulier « Approcher la mort avec le Christ », qui est une ressource en 5-6 vidéos et qui aide beaucoup là, à vivre là, une réflexion avec des témoignages. C'est super bon parce que les témoignages, c'est béton. Là, c'est pas juste un enseignement, c'est des gens qui ont vécu, qui sont passés par là avec des proches puis qui nous enseignent à la fois par leur expérience puis par leur réflexion. Et donc, effectivement, approcher la mort avec le Christ et mourir comme le Christ, je dirais que c'est mourir donc dans la confiance, c'est mourir dans l'abandon amoureux. Moi, je pense toujours à ce poème là, d'une carmélite, là, un amour matin. Je sais pas tout sur la mort, je sais pas tout sur ce passage-là. J'ai bien un frisson au moment de franchir le mur, mais je sais qu'un amour m'attend. Donc ça, c'est extrêmement important, puis on va continuer à travailler là-dessus.
Monseigneur Alain Faubert, un grand merci de nous avoir parlé de ce document et de votre expérience aussi. Le document, je rappelle le titre, « Piste d'action pastorale des personnes en fin de vie ». Merci beaucoup d'avoir été à Question d'aujourd'hui.
Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous pour votre écoute, votre présence. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.